Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Carnet de région, l'actualité en Occitanie proposée par plusieurs radios associatives. Au sommaire de cette semaine, Radio Pays d'Hérault nous présente une nouvelle association créée par des habitants de Clermont-l'Hérault à l'approche des élections municipales de 2020. Des habitants de Montpellier répondent à Emmanuel Macron au sujet des grands thèmes choisis pour le grand débat national. C'est au micro d'RCF Maguelone-Hérault. Anne-Yvonne Ledain est la nouvelle présidente du comité scientifique de l'Agora des Savoirs. Elle s'exprime au micro de Radio Aviva. Nous faisons la connaissance avec Radio 48 FM de Claude Canina, ancien sans domicile fixe qui a monté sa propre association. Et pour terminer avec Radio Grille Ouverte, il est question de théâtre avec la représentation de la Duchesse d'Amalfi de Guillaume Séverac-Schmitz à Alès ainsi qu'en région prochainement. Une association s'est créée à Clermont-l'Hérault à l'approche des élections municipales de 2020. La Fascicle, pour Fabrique citoyenne clermontaise, entend mettre son grain de sel dans la campagne qui s'annonce. Pour cela, elle organise des réunions ouvertes à tous les habitants de Clermont-l'Hérault et alentour. L'objectif, faire remonter les doléances des citoyens pour alimenter la campagne. Le collectif, qui regroupe une quarantaine de personnes aujourd'hui, organise 6 ateliers débat en ce début d'année. L'une des équipes candidates aux prochaines élections municipales s'est inscrite à ce collectif. Yves Galego, habitant de Clermont-l'Hérault, préside la Fascicle.
La raison d'être de la Fascicle, c'est qu'on voit qu'un cœur d'Hérault, Clermont existait dans ce cœur d'Hérault il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a pas un souci de performance, mais par rapport à Gignac qui s'est développé, l'Odève qui essaie de se bouger un peu, Clermont a perdu de son aura, quoi. Il se passe plus rien. C'est ça qui nous intéresse. Et pour l'améliorer, on veut réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Faire le constat déjà. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut apporter pour qu'on reprenne cette dynamique qui existait il y a plusieurs années? Et faire remonter les informations, bien évidemment, aux équipes, à l'équipe qui est le plus proche de nous et aux équipes éventuelles qui voudront s'en saisir. Alors, notre volonté de base, c'est d'être dans une démarche participative. Il est intéressant que tous les souhaits des acteurs clermontais, des citoyens clermontais, remontent vers l'équipe qui voudra bien récupérer la synthèse de toutes nos réflexions de manière à l'intégrer à leur programme. C'est ça qu'on souhaite. C'est de travailler à la construction d'un projet à court, moyen et long terme. Les mandats se déroulent trop vite. On essaie de travailler un fil rouge qui nous amènerait au moins à 3 mandats. On sait que les équipes qui vont venir derrière peut-être seront élues que pour un an. Mais au moins, nous, au travers de la Fascicle, travailler à ce projet. C'est ça qui nous intéresse. Au-delà du prochain mandat, pourquoi pas? Aujourd'hui, si on travaille sur 6 ans, ça passe trop vite, ça ne veut rien dire. On voit très bien que les équipes commencent à pédaler, déjà la troisième année, la quatrième année, ça s'essouffle parce qu'ils ne savent pas si... Non, ayons une vision, nous, clermontais, voilà, de l'association à long terme.
C'était Yves Galego, président de la Fabrique citoyenne clermontaise. Le collectif a organisé 2 premiers ateliers thématiques ce mois-ci sur le cœur de ville et la sécurité. Un 3e atelier traitera de l'environnement fin janvier, toujours dans le local de l'association rue Paul Bert à Clermont-l'Hérault. Un sujet de Xavier Terrien de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Le grand débat national, à l'initiative du président de la République, bat son plein partout en France. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a voulu encadrer le débat dans 4 grands thèmes, à savoir la transition écologique, la fiscalité, la démocratie, la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Des habitants de Montpellier lui répondent.
Les impôts, les dépenses et l'action publique sont les premiers sujets du grand débat. Certains veulent le retour de l'ISF, mais pas Philippe.
Plus de justice fiscale. Peut-être que plus de gens payent l'impôt aussi, par exemple. Il me semble que si davantage de gens payaient, même symboliquement, je sais pas moi, 50 euros par an pour certains, ils participeraient tous à l'effort national, on veut dire.
Le deuxième thème est l'organisation de l'État et des collectivités locales. Johan veut faire passer un message au président.
On se fout un peu de nous. Alors on a créé les communautés de communes, une couche de plus pour mutualiser, etc. En fait, on n'a rien mutualisé, on a multiplié les postes. Et ça a rajouté une ligne sur les taxes foncières, taxes d'habitation, etc. Enfin, il y a trop de strates, trop de choses en doublon, trop de choses qui coûtent cher, quoi. Et au final, quel retour sur investissement avons-nous ? C'est pas vraiment mesuré non plus.
Nathalie, quant à elle, a des propositions et des interrogations sur la transition écologique.
Peut-être donner un peu plus de moyens, parce que l'achat d'un véhicule électrique est très onéreux, même pour des classes moyennes supérieures. Ça coûte entre 25 000 et 30 000 euros. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas. Et deuxièmement, si on mettait tout le parc automobile en électricité, comment l'approvisionner ?
Pour redonner plus de force à la démocratie, Marcel a un conseil pour Emmanuel Macron.
Je dirais de retravailler les prochaines élections, le code électoral. Et de faire en sorte que le prochain président de la République, ce sera peut-être lui, ce sera peut-être pas lui, ait une vraie base électorale derrière lui et pas seulement un parti fantôme.
Et en guise de post-scriptum, Pamela a un message à faire passer non pas au président, mais aux Français.
Moi je trouve que la France a beaucoup de chance et les Français ont beaucoup de chance, ils ne devraient pas râler comme ils râlent. On a énormément de choses ici que l'on ne trouve pas dans les autres contrées européennes.
C'était un reportage de François Charbonnel pour RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La semaine dernière, Philippe Sorel a présenté Anne-Yvonne Le Dain, nouvelle présidente du comité scientifique de l'Agora des Savoirs. Dès le second cycle de cette édition, la manifestation s'enrichit donc d'un nouveau regard porté par cet ingénieur titulaire d'un doctorat et entouré d'une équipe de scientifiques partiellement renouvelée. À l'occasion de la conférence de presse de présentation, Anne-Yvonne Le Dain s'est penchée sur les sciences et la corrélation entre sciences et démocratie.
Des ouvertures et des ouvertures vers les sciences exactes, vers des sciences concrètes, celles qui changent la vie de tous les jours sans même qu'on s'en rende compte. Améliorer les compétences de chacun d'entre nous sur ce qu'est le monde, sur ce qu'il a été, sur la façon dont il s'est construit, ses connaissances anthropologiques, historiques, c'est indispensable. Mais montrer aussi que la science technique change nos vies et donc mettre dans les faits en quoi elle change nos vies et en quoi il ne faut pas en avoir peur, même si ce 21e siècle... Qui a tendance à être religieux, comme l'avait dit Malraux dans les années 60, a tendance à vouloir décider du bien et du mal, il faut rappeler ce qui est le vrai et le faux. Et les sciences, la science, est capable de dire ça. Après, le monde politique fait ce qu'il veut. Il est choisi démocratiquement. Mais rappelez toujours que la science, elle est née avec la démocratie, mais la démocratie, elle est née avec la science. Fondamentalement. Les encyclopédistes ont précédé la démocratie en France et dans nos pays occidentaux. Et moi, je veux revenir à cette société du savoir et des connaissances qui va avec les compétences et une confiance dans l'avenir. Et pas toujours cette angoisse permanente de que tout n'est pas parfait. Mais ben non, tout n'est pas parfait. Mais la science, elle permet d'avancer pour rendre les choses plus justes, plus belles, plus pratiques, plus faciles, grosso modo pour aller mieux. Toutes les sociétés dictatoriales n'ont jamais progressé. Toutes celles qui ont progressé, c'est celles qui se sont appuyées sur les savoirs scientifiques et les savoirs techniques. Et quand on s'est arrêté de faire confiance à la science, et donc quand on s'est arrêté de faire confiance à la liberté des chercheurs, à la liberté de la science, à la liberté du savoir et à ses diffusions, eh bien, les sociétés se sont arrêtées. La démocratie s'est arrêtée. Ou bien elle n'a pas progressé. Donc la science et la démocratie sont totalement corrélées. Et donc moi, je veux remettre un peu plus de science exacte, celle qui fait les avancées quotidiennes de notre confort de vie. Et expliquer vraiment profondément que la suspicion constante à l'égard du progrès est incompatible au fait que le progrès, on en vive.
un sujet proposé par Liliane Drey pour Radio Aviva. Après avoir vécu plusieurs années dans la rue, Claude Canina a décidé de monter sa propre association, l'association Elvira, du nom de sa fille. Une fille, un fils, un petit-fils et une compagne qui fait elle aussi partie de l'association. Cette belle histoire fait suite à une période bien plus sombre de la vie de Claude.
22 ans de rue, je crois que ça me fait pas mal, non? Il y a un SDF qui m'a pris sous son aile. Et après un avant la route, j'ai appris tout le système D. Et de ville en ville, j'ai fait de ville en ville, de ville en ville, de village en village. Moi, j'ai toujours fait de la survie. J'ai pris une dernière cuite, d'ailleurs que j'ai failli passer à la dernière. Moi, j'ai fait une cure et ça m'a suffi. J'en vois beaucoup, ils font une cure, ils re-rentrent, ils ressortent, ils re-rentrent, ils ressortent. Non, c'est pas une vie ça non plus. Alors je vais essayer de les aider au maximum.
Une débrouillardise qu'il compte bien utiliser pour accompagner les personnes dans le besoin à travers son association.
Quand on va venir sonner chez moi ou me téléphoner, je les aiderai dans leur quotidien à ce qu'il faut faire, à ce qu'ils ont besoin. Je répondrai toujours présent. Pour tout, que ce soit papier, que ce soit physique, moral, l'amour, le respect, la politesse, tout. Le partage. Le mot partage, déjà, on l'entend plus sur toutes les bouches. Et ce qui est bien dommage. Un morceau de pain, on y est trois, on le partage en trois. Moi, je vois qu'on est en 2019, il faut arrêter de voir ça, ça suffit. La misère, ça suffit aussi. Les restaurants du cœur, stop aussi, il faut arrêter tout ça. Non, il faut que tout le monde ait du travail, il faut que tout le monde mange à sa faim, et qu'il soit habillé correctement, un peu de tout ça, quoi.
Prêt à travailler en coordination avec toutes les associations d'aide aux plus démunis, Claude s'est déjà engagé auprès de l'association Sac à dos, à laquelle il a proposé plusieurs exemplaires de son livre retraçant son parcours du combattant. C'était un sujet de Léa Jacquet de 48 FM.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La scène nationale Le Cratère d'Alès accueille cette semaine une création du collectif Eudémonia, la Duchesse d'Amalfi. Le metteur en scène, Guillaume Séverac-Schmitz, a eu le désir de monter cette pièce de théâtre élisabéthain de John Webster, un contemporain de William Shakespeare. Une tragédie où une femme, la Duchesse d'Amalfi, affirme sa liberté amoureuse face à un système patriarcal qui n'aura de cesse de la dominer. Une tragédie qui mêle passion amoureuse et incestueuse, lycanthropie, crime et châtiment. Cette débauche d'émotions fortes est portée par cet acteur, habité par le rôle, qu'expose Guillaume Séverac-Schmitz.
À la base, je fais un travail de théâtre d'acteur. Donc la pièce, elle, contient des rôles pour les acteurs qui sont extrêmement profonds, extrêmement engagés, extrêmement aussi difficiles, hein, sont des partitions très difficiles. Donc à la base, il y a ça, c'est les situations que vivent les personnages sont absolument passionnantes à travailler avec les acteurs. Ensuite, il y a évidemment le rôle de la Duchesse, qui est un personnage rare dans le théâtre élisabéthain, c'est le rôle titre. À cette époque-là, les femmes ne tenaient pas le premier rôle. Et qui plus est, une femme qui affirme sa volonté d'être libre.
Elles étaient interdites d'ailleurs de scène.
Oui, tout à fait. C'est dingue, c'est qu'il y a évidemment quelqu'un là-dessous, dans l'écriture de Webster. Il semblerait qu'il y a quelqu'un, en tout cas une femme, qui en tout cas l'inspire, au-delà du fait divers qui existe donc dans cette histoire. C'est-à-dire que ça a vraiment existé. Donc il y a ça, et c'est vraiment l'histoire de cette femme. Après, il y a une chose très importante. Les valeurs de l'amour et les valeurs de la célébration des morts. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que je ne monte jamais une pièce sans, évidemment, avoir en filigrane quelque chose, moi-même, et comme tout metteur en scène, évidemment, à y trouver des questions, à se poser des questions, des choses sur lesquelles je peux réfléchir sur ma propre condition d'homme, à travers mon métier d'artiste, d'une certaine manière. Et c'est à la fois la célébration des personnes que nous aimons, et qui sont disparus. C'est ça aussi, d'une certaine manière, l'histoire de la Duchesse d'Amalfi. Parce qu'à travers cet amour extraordinaire qu'elle va vivre avec son ami, avec son mari, qu'elle va lui le demander en mariage, il y a évidemment la destruction de cette famille par l'oppression des frères. Il y a aussi, à cet endroit-là, la force vitale, en fait, qui s'échappe de cette pièce et de ce personnage et de ce couple. C'est aussi une ode à la vie.
Après les représentations alésiennes, la Duchesse d'Amalfi sera visible en région à l'archipel de Perpignan les 12 et 13 février, à Narbonne le 3 avril et au Théâtre de Nîmes les 17 et 18 avril. Un sujet proposé par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. Ainsi se termine le carnet de région, l'actualité en Occitanie, proposé par les radios associatives de la région. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.